Bonjour, c'est Léna Candissounon et Agathe Guillemot.
Bienvenue sur Athlètes Mondiaux.
Salut tout le monde. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlée qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. J'innove cette semaine, car je reçois non pas une, mais deux invités, Agathe Guillemot et Léna Candissounon, deux athlètes de la Team Croquette, entraînées par Marc Reuset au Haute-Bretagne Athlétisme. D'ailleurs, un petit coucou à Clara Lieberman. Si t'es partante, on enregistrera une partie 2 avec toi. Léna Candissounon est spécialiste du 800 mètres, Agathe Guillemot du 1500. Dans cet épisode, elles nous parlent de leur amitié, bien sûr, mais aussi de ce qu'elles ont en commun et de ce qui les distingue, de leurs études et de ce qu'elles considèrent ou non comme des sacrifices dans le sport de haut niveau. Nous revenons également sur leur saison en salle, lors de laquelle Agathe a battu deux records de France, celui du Mile à Ostrava et celui du 1500 à Liévin. Agathe a ensuite participé au Mondiaux en salle de Glasgow, où Léna et Clara sont d'ailleurs allées l'encourager. Bonne écoute. Salut les filles, bienvenue sur le podcast.
Salut.
On enregistre le 12 mars, vous êtes en vacances ?
Non, pas trop de vacances. On sort du Championnat de France de cross et on va directement attaquer sur la préparation pour la saison estivale. Donc on est reparti à l'entraînement.
Pas de pause du tout après l'indoor ?
Très très peu, pour moi en tout cas. J'ai été malade cette saison, donc j'ai dû couper 5 jours complètement et on va dire 10 jours où c'était light. Donc j'ai déjà, on va dire, pré-coupé et j'ai été voir Agathe à Glasgow, donc ça m'a fait couper 3 jours. Et non, la saison estivale arrive très très vite.
Ouais, moi après les mondiaux, j'ai déchargé une semaine, mais j'ai pas coupé complètement, j'ai juste réduit les intensités et le kilométrage, mais... En plus de ça, moi, j'aime pas trop couper, donc ça me dérange pas du tout. Et comme les échéances arrivent très vite avec un premier pic de forme pour les championnats d'Europe début juin, on n'a pas trop le temps de redescendre et en plus, ouais, on a des stages. Donc voilà, on va essayer de suivre sur cette forme et je pense que ça va le faire. Il faut juste être intelligent et savoir s'écouter.
Vous allez les faire où, vos stages ?
Pas au même endroit. Moi, je vais avec la fédération à Potchefstroom, en Afrique du Sud, pendant 20 jours. Et je pars aussi avec la troisième de notre groupe, Clara Lieberman, qui est coureuse de 800. Et Agathe, elle nous lâche.
Ouais, moi, du coup, j'étais déjà allée à Poch en décembre, mais j'ai eu trop chaud. Et du coup, je préfère aller à Fouromeux, où le climat me va mieux. Et en plus de ça, moi, j'intègre pas mal de vélo dans ma préparation. Et à Poch, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas forcément les parcours. Et donc voilà, j'ai fait le choix d'aller à Fouromeux avec les gens de mon groupe d'entraînement et mon kiné. Il faut savoir faire des choix aussi et se séparer de la Team Croquette pendant 3 semaines. Mais on sera en même temps en stage, donc on va vivre à peu près la même chose, juste pas le même climat.
Mais là, Poch, comme c'est l'hémisphère sud, il fait peut-être moins chaud maintenant, non ?
Ouais, il fait moins chaud qu'en décembre, mais ça reste quand même des températures assez élevées, puis le soleil qui tape, quoi. Et c'est vrai que peut-être pour une course de 1500, c'est un peu plus compliqué de s'entraîner quand il fait chaud. Par contre, pour tout ce qui est sprint et le plus court, c'est incroyable.
Donc, on a vu des très belles photos de Léna et Clara à Glasgow pour venir t'encourager, Agathe. C'était l'idée de qui que Léna et Clara fassent le déplacement ?
C'était une surprise pour moi, donc...
Ok.
C'était mon idée. C'est mon idée après que Agathe ait fait les minima à Liévin. J'ai appelé Clara et je lui ai dit « Je pense que ça serait bien qu'on aille soutenir Agathe à Glasgow. » Surtout que c'est pas si loin que ça, et puis c'est quand même sympa, et je pense que ça lui ferait plaisir. Du coup, on a pris nos billets d'avion, on a réservé le Airbnb, et on voulait lui faire une surprise. Bon, on a craqué, on lui a dit, et il y a eu un petit problème, c'est qu'on, comme beaucoup de personnes, on n'a pas trouvé de billets. On a eu des billets que très très tard. Du coup, on se disait, mais en fait, de toute façon, on va faire l'aller-retour, on va aller à Glasgow, et on va même pas pouvoir la voir dans le stade, on regardera ça à la télé. Mais je pense que ce qui était important surtout, c'est d'être là pour elle le jour avant la compétition. Pas vraiment au moment de la compétition, parce que elle sait très bien courir sans nous. Elle l'a fait pendant toute la saison. Elle a pas besoin qu'on soit à ses côtés pour courir, qu'on la tienne par la main. Mais c'était surtout l'avant et l'après, parce qu'en championnat international, c'est des moments d'attente qui sont souvent très longs. Et en comité réduit, comme il l'était à Glasgow, c'est souvent un peu... on s'ennuie assez vite. Et puis en championnat du monde, c'est compliqué à gérer, quoi. C'est des grosses compétitions où... le stress monte assez rapidement, donc je pense que c'est bien d'avoir ses potes qui disent plein de bêtises pendant toute la journée pour se détendre. Quoi.
Mais Agathe, t'es du genre à parler avant un grand championnat comme ça ? Parce qu'il y en a qui préfèrent qu'on les laisse tout seuls et qui n'ont pas forcément envie d'avoir du monde autour d'eux.
Non, je pense que je suis plutôt du genre à parler. Et puis, comme disait Léna, c'était vraiment en amont de la compétition et ça fait du bien aussi de pas toujours rester dans sa bulle. On perd d'énergie à toujours vouloir, imaginer la course ou... En fait, il ne faut pas que le stress et l'excitation montent trop tôt, sinon on perd trop d'énergie et on explose avant la course. Mais heureusement qu'elles ont trouvé des places, c'était quand même chouette aussi une fois rentrées sur le stade, d'avoir des visages qu'on reconnaît. Et en plus, elles étaient juste tout proches du départ, donc ça, c'est des petits moments que j'aime bien. Et quand tu croises leur regard et tout, c'était chouette.
Et on a déconcentré tout le monde, on a crié « Agathe !» On a déconcentré toutes les filles sur la ligne de départ. L'espagnole et l'anglaise, elles nous ont regardé comme ça avec des yeux noirs.
Pendant la course, tu les as entendus ?
Ouais, parce que en fait, pendant la finale, j'avais donné des petites consignes qu'elles me drive un peu sur est-ce que ça part vite ou pas sur la course, pour pas que je me soucie de regarder le chrono, mais juste pour que je sache dans quel format de course je me lance. Mais au final, je l'ai vite senti. Mais du coup, elle me criait des « ça va vite, ça va pas vite, c'est nickel, parfait ». Et comme ça, je savais exactement sous quel format de course c'était et pour que je puisse bien gérer ma course. Et puis après, dans le dernier tour, je crois qu'elles ont bien hurlé aussi, donc ça, je les ai entendues.
Ça va, Léna, t'as retrouvé ta voix, si tu l'avais perdue.
Tu l'avais pas perdue aussi ? Non, je l'avais pas perdue. J'ai eu un peu mal à la tête, surtout en série, parce que je me suis levée d'un coup. Et j'avais la tête qui tournait, mais... Ça va maintenant, j'ai récupéré.
T'as aussi fait une saison en salle, Léna, mais vous n'avez pas fait une saison avec les mêmes objectifs.
Ouais, on n'avait pas forcément les mêmes objectifs en salle. Moi, je visais pas forcément les championnats du monde. Si j'arrivais à faire les minima, c'était bien, mais je voulais pas courir derrière ça. En plus, j'ai été malade, donc heureusement que c'était pas mon objectif, parce que je pense que ça aurait été compliqué de les faire, ces minima. Ouais, l'important, c'était vraiment de garder un pied dans la compétition et de garder des bons repères en compétition, parce que 800 mètres, c'est quand même très compliqué comme discipline, enfin 1500 aussi. C'est des disciplines où faut garder les habitudes, et il y a des habitudes à prendre, et on est encore toutes les deux assez jeunes dans nos disciplines, et on a beaucoup à apprendre, et je pense que ça aurait été dommage de laisser passer un hiver sans apprentissage, et j'ai bien fait d'avoir fait quand même quelques petites compétitions cet hiver, parce que j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment génial. Et je pense que je suis comme Agathe, on adore la compétition, on adore s'entraîner, mais on adore aussi aller en compétition et un peu se frotter aux autres, donc c'était chouette.
T'as appris quoi cette saison ?
Alors, je pense que mon plus gros apprentissage, c'était au championnat de France en finale, parce que j'ai décidé de partir toute seule devant. C'était un truc que j'avais jamais fait. J'ai plutôt un gros finish, et sur des courses tactiques, c'est des courses qui me plaisent et que j'arrive à très bien maîtriser, attendre et sortir dernier 50, 80 mètres. Mais c'est des choses que je sais faire en fait, et je voulais tester un autre format de course, un truc que j'avais jamais fait, et courir devant, ça, j'avais jamais fait, ça me plaît pas, c'est pas un format de course que j'aime, mais du coup j'ai essayé et j'ai appris que je pouvais le faire, que j'étais capable, parce que c'est ce qui s'est passé à la finale des championnats de France élite. En fait, je suis partie toute seule devant, et j'ai fait un chrono toute seule devant. Anaïs Bourgois me dépasse les derniers 50 mètres, mais sinon le reste de la course, je suis devant, et donc voilà, ça a débloqué pas mal de choses mentalement, et j'ai mis une nouvelle corde à mon arc, et j'en suis assez fière.
Et toi, Agathe, ton objectif, c'était Glasgow dès le début de la saison ?
Ouais, clairement. J'avais vraiment à cœur d'y être pour avoir encore une nouvelle expérience à l'international. Et j'ai bien fait de le faire parce qu'en plus de Budapest, là, du coup, j'ai enchaîné un tour. J'ai réussi à passer, du coup, en finale parce que j'avais pas réussi à Budapest. Et justement, l'entre-deux, je le connaissais pas. Et je trouvais ça bien de l'apprivoiser, là, cet hiver, avec un peu moins de pression que sur des compétitions de cet été où il y aura un peu plus d'enjeux quand même. Parce que la salle, c'est une répétition pour l'été. Donc ouais, c'était clairement l'objectif. Et puis aussi le record de France que j'ai réussi à faire. Donc on va dire que j'ai coché les deux objectifs principaux et c'est cool.
Qu'est-ce que t'appelles l'entre-deux en grand championnat ?
En fait, moi j'ai couru le vendredi soir mes séries à Glasgow et la finale c'était dimanche soir. Donc en fait, t'es qualifié en finale mais tu cours pas le samedi. Il faut quand même que tu restes un peu dans la compétition mais pas trop et il faut savoir gérer ça. Savoir aussi quoi faire en récupération, est-ce que tu vas faire le kiné, est-ce que tu fais un bain froid, est-ce que tu vas courir, faut aller voir les copines. Non, mais en fait, il faut juste trouver ce qui te fait être le plus performant possible, le plus performant possible le lendemain, mais c'est difficile de savoir en fait tant que tu l'as pas vécu. Donc là, on a testé avec Marc, j'ai couru un peu, j'ai vu les kinés, j'ai vu Léna et Clara, on a pris un goûter et j'étais performante le dimanche soir, donc Je pense que si j'ai à passer des tours dans les prochains grands championnats, c'est ce genre de jour off, entre guillemets, qu'il faudra faire, c'est aller voir les kinés et sortir un peu de la compète pour tout simplement penser à autre chose et, comme avant la course, ne pas perdre du jus à trop penser à la finale, quoi.
Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire.
Non, surtout quand, on va dire dans l'hôtel, tous les athlètes étaient dans le même hôtel, tout le monde va à la compétition, l'encadrement va aussi à la compétition, donc c'est dur de sortir à la télé, de regarder un petit peu quand même les championnats, parce que il faut suivre les performances quand même de ses camarades de l'équipe, mais il faut savoir le faire, parce que il faut être un petit peu égoïste et penser à soi et prendre le temps de sortir, et tant pis si tu rates les demi-finales du 400 mètres ou des choses comme ça, il faut penser à soi, parce que finalement quand je serai sur la ligne de départ le dimanche soir, j'étais toute seule, donc
ce sera pas la course de 400 qui sera à ta place, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut trouver le juste milieu, et voilà, donc c'était surtout pour ça que je voulais faire les championnats du monde. Et puis comme disait aussi Léna, c'est garder les bonnes habitudes, de se confronter avec les filles, et surtout pas dans des meetings mais dans des championnats, parce que les courses sont complètement différentes, notamment sur le 1500, sur le 800, des fois ça va un peu plus vite, ça se ressemble finalement. Je sais pas,
ça se frotte un peu quand même. J'ai l'impression que les filles, elles ont pas du tout la même mentalité en meeting et en championnat. En championnat, tout le monde a un supplément d'âme et vient vraiment chercher quelque chose de différent. Et ça rend tout de suite les courses avec beaucoup plus de tension. Il y a de la tension dans le peloton et tout le monde est déglingué du cerveau, quoi. Tout le monde est prêt à tout pour passer. Il y a beaucoup plus de tension et c'est beaucoup.
On peut pas se rater. Donc c'est pour ça que je voulais faire absolument ces championnats du monde, et la finale était pleine de tensions, et très contente d'avoir réussi à produire ce que je savais faire dans cette finale où il fallait rester quand même hyper lucide et tout pareil, les filles voulaient tout passer, tout le monde voulait être placé au même endroit, et au final il y a quand même des médailles mondiales à aller chercher, donc c'est pas rien, et tu la sens cette tension, et j'avais envie de courir, pour une première en fait, c'était une première fois où je courais dans une course où au final au bout il y a une médaille mondiale à jouer, donc... Donc voilà, c'était une super expérience et plein de choses en plus dans le sac.
Et une autre différence, là, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de lièvre, ce qui me fait penser à ton record de France à Liévin. Très bon meeting, d'ailleurs, si je peux me permettre ce commentaire.
Ouais.
Où il y avait deux courses dans la course, on va dire.
Ouais, exactement. Il y avait des lièvres pour viser le record du monde. Et il y avait une lièvre pour moi pour viser le record de France, avec la Wavelight aussi sur le record de France. Donc tout était vraiment... optimisé pour que je puisse faire une course lisse et qui me permette de battre ce record. Et alors qu'en championnat, finalement, y a personne pour m'aider. Hein. Je suis toute seule. Il y a mes copines qui crient sur le bord du terrain. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas une lièvre et une wave light. Et au final, j'arrive à faire quasiment le même chrono à 3 dixièmes près. Donc ça, c'est aussi une satisfaction. C'est que j'ai réussi finalement à être à mon meilleur niveau dans une course où rien n'était fait pour moi, quoi, on va dire.
Ouais.
Alors qu'à Liévin, c'était servi sur un plateau d'argent. J'avais qu'à suivre. C'était, entre guillemets, facile. Mais c'était quand même chouette de réussir parce que c'est aussi une pression supplémentaire. Tu te dis, si je me rate alors que tout est fait pour que je perf, merde, qu'est-ce que je peux mettre d'autre en place, quoi.
Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ?
Je sais pas si première rencontre, non, le premier stage.
On n'a pas fait de section ensemble jeune, je crois.
Ouais.
Mais le premier stage, je pense qu'on peut le raconter.
On s'est un peu engueulé sur le premier stage, parce qu'on était parti faire un footing, donc c'était à Seignos.
C'était pendant le Covid. Enfin, dans la période du Covid. Donc on était en stage, mais c'était les périodes où on avait, à part les sportifs de haut niveau, personne n'avait le droit de sortir. Donc on avait été faire un footing.
Non, déjà il faut savoir qu'on s'entraînait pas ensemble. Moi, du coup on est dans le même club, mais moi je m'entraînais pas avec Marc à cette période-là. Mmh. Et j'intégrais du coup le groupe de Marc juste pour ce stage. Donc je connaissais pas trop encore le fonctionnement d'un entraînement en groupe, parce que moi en fait je m'entraînais quasiment toute seule. Donc voilà. Et on est parti sur un footing dans des conditions.
C'était alerte rouge.
Alerte rouge. Compliqué, vent, pluie, neige.
Grande marée. Parce qu'on était près de la mer, on est passé sur le quai, il y avait de l'eau partout. Donc c'était vraiment, c'était l'apocalypse.
Et on était avec Maëlle Gouillette, qui est un coureur de 15, qui a fait deuxième aux élites cet hiver. Et je commence à le suivre. Et puis à un moment donné, on a semé Léna. Et Léna s'est retrouvée perdue parce que on l'a pas attendue.
J'avais pas de portable, j'avais pas de montre. Et j'étais toute seule dans un endroit que je connaissais pas. C'était la ville, mais vu qu'il y avait le Covid, il y avait rien d'ouvert. Tout était fermé et j'avais aucune idée de l'endroit où j'étais vraiment. Et au bout de 20 minutes, je me suis mise à marcher parce que j'en pouvais plus.
Et du coup, moi, je rentre au lieu de regroupement, c'était prévu de qu'on se retrouve. Il n'y a pas de Léna, donc je décide de rebrousser chemin et d'essayer de la trouver. Et je la vois au loin qui court, mais à l'opposé de là où on devait aller. Du coup, je lui dis Léna. Du coup, elle revient vers moi et là, je me fais. Bon voilà, on va dire engueuler en disant que je pensais qu'à ma gueule, et bon en vrai c'était un peu vrai là. Mais en tout cas, voilà à peu près notre premier stage. On en rigole maintenant, mais moi j'en rigolais pas sur le.
Moi non plus, j'en rigolais pas.
Mais voilà.
Vous pensiez quoi au début l'une de l'autre ?
Moi, Léna, je la connaissais plutôt comme une sprinteuse, coureuse de 400, et en fait, on se connaissait vraiment pas
trop.
On se croisait pas sur les sélections, on n'était pas de la même région, parce que du coup, Léna est d'Île-de-France et moi de Bretagne. On ne faisait pas du tout les mêmes disciplines. Moi, je faisais du coup des épreuves combinées quand toi tu faisais du 400, donc,
On s'était croisés sur 800 à un meeting à Miramas une année, quand t'es arrivée au club. Moi, j'étais contente qu'elle rejoigne le groupe. Parce que c'est plutôt un groupe de sprinteurs et à l'époque elle faisait du 4H et j'étais contente qu'il y ait une nouvelle fille qui arrive dans le groupe. J'étais contente et elle avait l'air drôle.
Et comment vous êtes arrivée à vos disciplines actuelles ? Parce que vous avez toutes les deux touché un peu à tout.
Ouais, surtout elle.
C'est assez simple. J'ai fait des épreuves combinées parce que je trouvais ça fun. Jusqu'au jour où je trouvais ça plus fun parce que ça me prenait trop la tête les disciplines plus techniques comme les lancers ou les sauts. Où du coup, je me suis dit que j'allais faire du 400 mètres haies, parce que je pensais que c'était la discipline qui regroupait le mieux les compétences que j'avais pu apprendre pendant toutes mes années de combiné, plus pour dire mes qualités de base, qui étaient quand même le demi-fond. J'étais très forte sur le 800 et le 200 dans les tatlons. Et du coup, j'ai fait une année de 400 mètres haies pendant le Covid, le premier confinement. Je fais quatrième aux élites, je crois, quelque chose comme ça, à Albi. Mais il n'y avait que les listés qui pouvaient participer. Enfin, je sais pas trop quoi en faire de ce résultat, mais voilà. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de rejoindre le groupe de Marc Rezé, parce que je savais que il y avait un bon groupe sur 400 haies, 800. Et en me préparant pour 400 haies, je me blesse au pied. Je me fais une fracture de fatigue et du coup, je fais pas mal de foncier sur vélo, natation. Et finalement, quand je demande à Marc de refaire un retour en compétition, j'étais capable de faire qu'un 1500 ou un 800. Je fais un 1500 et ça se passe très bien. Je fais 4 minutes 23 en salle. Je fais les élites sur 800. Je fais ma première médaille aux élites. Et puis après, j'ai jamais lâché le demi-fond parce que j'avais peur de m'ennuyer. Et en fait, finalement, on travaille plein de choses différentes et c'est super chouette. Franchement, c'est pas facile tous les jours, mais franchement, je prends beaucoup de plaisir et c'est très varié. Il y a plein de choses à faire et encore plein de choses à apprendre. Donc, très contente de mon choix. Voilà pour ma part. Vas-y, Léna.
Merci. Moi, j'ai été formée au Dynamic Olney Club à Aulnay-sous-Bois. Donc, c'est plutôt un club de perchistes. Et en gros, jusqu'à minime, on m'a obligée, mais à juste titre, à faire toutes les épreuves de l'athlétisme. Donc, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait aussi des combinés jusqu'à cadette. Mais ce qui me plaisait, c'était le sprint plutôt, le 200-400. Et toutes mes années cadette junior, j'ai eu des titres de championne de France sur 400 mètres. Et j'ai fait mes premières sélections aussi sur 400 mètres et 4x4. Donc j'étais plutôt une sprinteuse à la base. Et en espoir 1, Clara Lieberman, du coup, qui s'entraîne avec nous maintenant, mais qui était avec moi à Aulnay-sous-Bois à l'époque, m'a dit « Ah, Léna, génial, on va faire un 800 mètres à Saint-Denis, il y a un meeting, viens avec moi, ça va être génial. » Et j'ai fait un 800 mètres et j'ai fait 2,07. Du coup, cette même année, les championnats de France élite, ça se passe pas très bien pour moi. J'avais couru sur 400 et 200 et j'avais pas fait des super chronos. J'étais un peu rincée. Et du coup, mon coach m'avait dit, pour les championnats de France espoir, t'es espoir 1, mais va te faire plaisir, choisis la discipline que tu veux et je veux juste que tu finisses ta saison avec le sourire, quoi, et que t'arrêtes de pleurer. Parce que j'avais beaucoup pleuré. Et je gagne les championnats de France espoir sur 800 mètres, alors que je m'étais pas préparée du tout sur ça. Et du coup, ça a ouvert un peu une porte. L'année suivante, je pars aux États-Unis. À Sisson, donc c'est une fac à Los Angeles, au nord de Los Angeles, en D1, donc c'est la division 1. Et je m'entraînais avec Laurence Johnson, Boogie Johnson, l'entraîneur de Dalila Muhammad notamment. Et là, il a un groupe énorme, 400 haies. Et il voulait mettre, bien sûr, sur 400 mètres haies. Mais je suis pas très coordonnée et il s'en est rapidement rendu compte. Donc il m'a dit, on va pas faire du 4H tout de suite. On prépare à l'entraînement sur 4H, mais en compète, tu vas faire du 800. Donc j'ai fait toute la saison sur 800, fin de saison je fais les championnats d'Europe espoir sur 800, je suis championne de France sur 800, et après je rentre en France, j'intègre le groupe de Marc Rezé, avec l'idée toujours de faire du 400-800, ça a toujours été l'idée, je voulais pas d'entraîneur de demi-fond, Je voulais pas de groupe 1500 plus et m'entraîner comme une demi-fondeuse. Et c'est pour ça que j'ai choisi Marc Rezé. C'est que c'est vraiment, comme le dit Agathe, en fait, on a une approche de l'entraînement qui est hyper variée et pas demi-fond, à faire uniquement des footings et de la borne. On fait plein de trucs, on fait de la PPG, on fait des côtes, on fait de la technique, de la muscu. En fait, on s'entraîne en muscu comme des sprinteuses. Donc c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Et là, je suis du 800. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur 400 quand je serai plus vieille. Mon but dans la vie, c'est de faire moins de 24 sur 200. J'ai fait 24,2 en junior. J'espère faire moins de 24 sur 200. Donc, je pense qu'une année, quand je serai quasiment master, je me remettrai sur 200 pour faire moins de 24.
Et monter sur 15?
Non. J'ai fait le championnat de France de cross ce week-end. C'était infernal. Agathe m'a mis 4 minutes sur le cross court. Elle a eu le temps de faire son interview avec la Fédé et de revenir me chercher. J'étais toujours pas arrivée. J'ai vraiment des qualités de sprinteuse. Et déjà sur 800, je pense que j'optimise ce que je peux faire en demi-fond. Je pense que 800, 1000, c'est le maximum. 1005, je peux faire des choses correctes, mais je serai jamais une excellente grosse de 1500.
Justement, j'allais vous demander s'il y avait des séances sur lesquelles vous mettiez des raclés respectivement.
Sujet.
Parce que du coup, on est complètement différentes. On n'a pas du tout les mêmes qualités. Et du coup, on se met des grosses raclées, ouais, effectivement.
D'ailleurs, on se taquine.
Mais je pense que c'est ce qui fait la force du groupe aussi, c'est que justement, on a des qualités complètement différentes et que du coup, on se tire quand l'autre est un peu moins bien et on n'est pas en compétition perpétuelle parce qu'on sait très bien les qualités et les faiblesses de l'une et de l'autre. Donc voilà, donc moi, je prends des grosses raclées par Léna en séance de côte et je lui mets des grosses raclées... tout ce qui est au-dessus de la VMA, VMA, seuil, tout ce qui est un peu plus lent, ça c'est mon dada, on va dire.
Et quand vous mettez une raclée à l'autre, vous vérifiez que l'autre l'a bien remarqué, que vous lui aviez mis une raclée?
Voilà, ouais, généralement, Léna va sortir les rétroviseurs dans les
sur les côtes comme ça.
Moi je dis que je n'ai pas pu discuter avec elle pendant le seuil parce qu'elle était trop loin. Enfin, ça va, on le prend bien, c'est ok.
Ouais. Et en muscu aussi, il y a certains exercices, beaucoup d'exercices où Agathe a mis des raclés et elle aime bien me le rappeler, notamment le hip thrust.
Au départ des côtes, je lui dis que je lui fous la raclée au soulevé de terre. Non, au soulevé de terre, non.
Ah ouais, non, 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 non.
Allez, voler.
Ouais.
Est-ce que le fait de ne pas faire la même discipline, ça aide parce que vous n'êtes pas concurrente directe? En même temps, Léna, toi, t'es concurrente directe avec Clara.
On a déjà été concurrente l'hiver dernier sur le 800.
Et l'été d'avant aussi, on était fait pas mal de...
Ouais. Et moi, en tout cas, je vois pas de problème. Enfin, quand on est sur une ligne de départ, voilà, on est concurrente et je vais pas laisser passer Léna parce que c'est ma pote d'entraînement. Mais par contre, à l'entraînement, je pense qu'il faut juste être intelligent et se dire que si Léna perf, moi aussi je peux perfer et vice-versa. En fait, la performance de l'autre, c'est pas pour écraser l'autre. Et même quand Léna perf, je me dis, on fait quasiment les mêmes, on a le même environnement, donc moi aussi je vais performer, tu vois.
Ouais, et moi ça me fait du bien de l'avoir performé sur 1500, par exemple, quand elle commence la saison avant moi, parce que je me dis, oh trop bien, elle perf, ça veut dire moi aussi je vais perfer. Ouais. Du coup, ça soulage. Pour parler de Clara Lieberman, donc la troisième de la team Croquette qui s'entraîne avec nous, elle fait du 800 et un peu de 1500 aussi. Ouais. Et cet été au championnat de France élite, elle m'a attaquée, mais vraiment salement, en finale, à 250 mètres de l'arrivée. Et je me suis vraiment dit, oh la connasse, elle est en train de m'attaquer, quoi. Mais j'ai trouvé ça trop cool que... Et en fait, j'étais vraiment pas au courant, enfin, il n'y avait pas de tactique d'équipe. On a fait vraiment notre course et j'ai trouvé ça trop cool que, en fait, ça soit chacun pour soi et que tous les coups sont permis, quoi. Du coup, c'est trop bien. Et ça n'empêche pas que dès que la course elle est finie, on est trop contentes les unes pour les autres. D'ailleurs, Agathe gagne, je gagne et Clara fait deuxième. On est toutes hyper contentes les unes pour les autres et très fières de notre coach aussi.
Est-ce que le fait de vous entraîner ensemble, ça vous a fait découvrir certains aspects de la personnalité de l'autre que vous auriez sans doute pas découvert si vous aviez été juste amis et si vous aviez été collègues de travail, par exemple?
C'est un peu difficile de répondre parce que du coup, on s'est connus à travers l'entraînement. Parce qu'avant d'être amis, moi en tout cas pour Léna et Clara, avant d'être amies, ça a été des partenaires d'entraînement. Et c'est à travers l'entraînement où elles sont devenues mes amies. Mais forcément, tu découvres vraiment, je pense, beaucoup, beaucoup de facettes à travers l'entraînement. Parce que
c'est extrême,
ouais,
en fait.
T'es presque à nu, quoi. Dans l'entraînement, tu vois des hauts, des bas, de la joie, de la peur aussi. Enfin, tu passes par beaucoup, beaucoup d'émotions. Et quand tu as toute cette palette-là d'émotions, au final, tu connais presque toute la personne. Tu la vois aussi dans plein de situations différentes et forcément comment la personne réagit et comment aussi toi tu dois être vis-à-vis de la personne dans ce genre de situation et en tout cas c'est riche d'apprentissage aussi humainement parlant, je trouve.
Léna, c'est quoi la principale qualité ou le principal défaut d'Agathe ?
Ben, en fait, j'ai réfléchi à ça la semaine dernière. J'ai l'impression que cet hiver, on a réussi à prendre les qualités l'une de l'autre et à s'imprégner des qualités l'une de l'autre dans nos courses. C'est que moi, je suis très prudente, plutôt une personne très prudente, qui calcule beaucoup, très carré, et tout est calculé tout le temps pour être à la limite, pile poil à la limite, tout le temps. Donc me rentrer dedans, mais que ça soit en fait tout calculé, en course tout calculé. Et Agathe, elle est beaucoup plus fonceuse que moi. Et je trouve que cet hiver, on a réussi à échanger nos personnalités. Agathe, elle a fait des courses où elle se cachait derrière. Même au championnat de France, elle n'est pas partie à pleine balle devant. Elle a vraiment...
Fait une Léna.
Fait une Léna. Une accélération à la fin, jouer un peu avec les filles. Et moi, j'ai fait une Agathe, je me suis mis devant et j'ai bombardé. Et en fait, c'est des aspects de nos personnalités qui sont des qualités, mais aussi qui peuvent être des défauts, parce que si c'est poussé à outrance, c'est jamais bien. Et je nous vois un peu comme... c'est très beau ce que je vais dire, attention. Voilà. Le yin et le yang.
Waouh.
Avec le noir, le blanc, et à l'intérieur, un petit point blanc et un petit point noir. En fait, c'est équilibré, et je pense que pour performer, faut rester soi-même, mais il faut aussi aller chercher un peu de ce qu'il y a dans l'autre et de différent. Et je pense qu'on réussit bien à le faire là. Et voilà.
Merci, Léna.
Tu veux ajouter quelque chose, Agathe ?
Non, c'est très beau. Je suis sous choc.
Est-ce que Léna a un gros défaut que la France doit connaître ?
Un gros défaut ? Non.
Je pense qu'on a toutes les deux une grosse qualité, un gros défaut. On a beaucoup de caractère, toutes les deux.
Ouais. Disons que ça peut vite monter dans les tours, des fois, mais c'est pas grave. Disons que le soir même, après, c'est réglé, quoi. Mais s'il y a quelque chose qui nous fait...
Je nous vois un peu comme des sœurs. Genre, des fois, on est... Et après, le lendemain...
Ça peut friter, mais c'est pas profond, quoi.
Est-ce que vous voyez beaucoup d'amitié comme la vôtre dans le sport de haut niveau? Ou est-ce que vous pensez que c'est un peu difficile Est-ce que le sport de haut niveau, ça exige d'être un peu égoïste et qu'on doit renoncer à certaines amitiés?
Oui, il faut être un peu égoïste, mais pour moi, il n'y a pas de... avec l'amitié.
Parce qu'en fait, je sais très bien, tu vois, là, par exemple, elle est partie à Font-Romeu. J'aurais préféré qu'elle vienne avec moi en Afrique du Sud pour bien se marrer. Mais je sais très bien que c'est pour son bien et que j'aurais fait exactement la même chose si j'avais dû faire le choix. Donc en fait, on sait très bien, vu qu'on fait toutes les deux du haut niveau, on sait très bien les obligations qui y sont liées. Donc je vois pas ça comme de l'égoïsme, en fait. Et est-ce que notre amitié, elle est rare dans le sport de haut niveau? Je pense que oui, parce qu'on se marre énormément et j'ai pas l'impression qu'il y ait... ça beaucoup. Enfin, je trouve qu'on a un côté vachement fun et bon, des fois un peu bébête, mais je pense que ça nous aide au quotidien et que ça nous tire vers le haut. Et c'est un peu l'idée de la Team Croquette à la base, c'est de faire un truc très sérieux parce qu'on est très sérieux à l'entraînement. On se dégomme la tête tous les soirs et on se donne à 200%, mais on fait ça en rigolant et ça marche bien.
Et vous avez la même vision du haut niveau ? Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux, par exemple, à faire les mêmes types de sacrifices ?
Ouais, je pense. On est alignés là sur tout ce qu'on fait en dehors de l'entraînement, toute l'optimisation, les micro-optimisations de la performance, on est à peu près alignés sur ça.
Oui, même, je sais pas, tu vois, quand on fait une soirée, on sait tous que à minuit, on est rentré, même si là, on en fait plus trop, mais dans le quotidien, on est tous alignés et... C'est chouette parce qu'on n'est pas des extraterrestres, quoi. En fait, on est des gens normaux et c'est normal de bien manger, bien dormir, faire une sieste, bien s'hydrater.
Ouais, je trouve même pas ça zinzin, en fait, ce qu'on fait, je trouve ça.
Ouais, mais parce que je pense que les gens avec qui on discute tous les jours font aussi la même chose, donc ça paraît simple.
Ouais,
la vie tous les jours, c'est peut-être une petite bulle, mais en tout cas.
Et qu'on n'est pas extrême non plus dans ce qu'on fait.
Non.
On n'est pas extrême dans la bouffe, on n'est pas extrême. Si on a envie de manger une pizza parce qu'il y a une pote qui se fête son anniversaire, on y va, on va manger la pizza, il n'y a pas de souci.
Mais il y a des sacrifices que vous ne seriez pas prête à faire ?
Moi, si ça touche à mon intégrité physique ou mentale, je ne serais pas prête à le faire. Ou en tout cas, pour moi, ce n'est pas le sport de haut niveau. Donc, j'irai chercher une autre façon de faire du sport de haut niveau sans que ça touche à mon intégrité. Mais si on m'enlève ma sieste aussi, si on me dit « Parfait, tu dois plus faire de sieste !» Non, c'est mort.
Moi, je pense que la limite, c'est quand je prendrai plus de plaisir et que ça deviendra le bagne d'aller à l'entraînement. Quoi.
Ouais.
Là, ça sera trop. Mais tant que je me sens bien dans ma vie de tous les jours à faire ce que je fais, moi, je suis prête à faire, entre guillemets, ces sacrifices, même parce que...
C'est même pas des sacrifices, en fait.
Parce que franchement, je kiffe ma vie, quoi. Non, mais je te jure, quand je vais à l'entraînement et tout, c'est trop bien. Les compètes, on fait des trucs de fou, quoi. Je me dis, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que je fais, de vivre de ma passion, quoi. Donc...
Aucune lassitude?
Franchement, non. Ben, en fait, les entraînements, ils sont tellement diversifiés et...
Ah ouais,
se on se marre à chaque fois. Je sais pas comment on fait pour se marrer à chaque fois. Je parle toujours autant pendant les séances, j'ai toujours quelque chose à dire.
Ouais. Non, et puis même Marc, il essaye quand même de
diversifier.
De faire évoluer l'entraînement, même si... au plus profond de l'ordre du plan d'entraînement, c'est la même chose, mais la forme va un peu changer et... ce qui fait que, tu vois, ce matin, je suis allée nager et... c'était long, quoi. Mais finalement, tu finis, t'es content, voilà, tu racontes ça le soir, tu rigoles. Non, mais...
Ouais.
Donc, ouais, c'est pas trop de lassitude. Non.
Tu devrais faire du triathlon. Tu dis que tu nages, tu fais du vélo.
Ouais, je nage pas très vite non plus. Hein. Je le fais pour l'athlée. Et le vélo, c'est pareil, je le fais pour l'athlée. Mais pourquoi pas, après ma carrière d'athlète, peut-être pas la triathlon, peut-être duathlon, parce que je nage vraiment pas très... Enfin, ça va, je nage, mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend très jeune et j'ai pas la glisse.
C'est un peu une blague qu'on a. Avec Clara, on fait que dire que quand on sera plus vieille, on gardera les enfants d'Agathe. Enfin, Clara gardera les enfants d'Agathe et moi, je ferai le ravito quand elle fera ses duathlons ou ses Ironman ou je sais pas quoi. Je ferai ravito et on s'entraîne des fois à faire ravito à Agathe sur ses footings.
Est-ce que la vie sur le circuit, ça fait rêver beaucoup de gens? Il y en a qui rêvent de faire des meetings, d'aller de ville en ville pour faire les gros meetings. Est-ce que c'est si glamour que ça ou est-ce qu'on passe son temps dans les avions low cost et dans les hôtels
Bah, je pense, je sais pas si on a la même vision. Moi, j'adore, enfin, j'aime bien en tout cas de ce que j'ai vécu l'été dernier. Après, on est encore, enfin, on découvre encore tout ça. Hein. C'est pas encore hyper ancré dans les meetings, c'est pas encore sûr qu'on y rentre tous. Les Diamond League, quand on rentre, on est super heureuse. Mais en tout cas, l'été dernier, j'ai quand même fait pas mal de meeting gold et de Diamond League. Donc voilà, je commence à connaître un peu le processus. Et finalement, j'aime bien me laisser porter par l'organisation et de pas trop réfléchir à tout ça. Donc je le vis bien, mais c'est pas... non, c'est pas glamour. Je pense que beaucoup de gens nous disent qu'on a de la chance de voyager, mais finalement... enfin, le voyage, c'est aussi découvrir bah, les cultures, la ville, tout ça. Mais finalement, on voyage pas vraiment...
Tous les hôtels 4 étoiles se ressemblent.
Oui,
c'est la même nourriture qu'on nous donne tout le temps.
On découvre pas, mais en tout cas, moi, j'aime bien quand même.
Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et aussi parce que c'est le moment où on retrouve les autres athlètes qu'on n'a pas le temps de voir pendant la saison, les athlètes d'autres disciplines, et qu'on prend le temps de discuter au petit-déj, et c'est toujours sympa. Et aussi, c'est le moment de rencontrer les athlètes étrangères qui font notre discipline.
Ouais, puis je trouve que du coup, quand on est dans les mêmes hôtels et qu'on vit la même chose, elles font un peu moins peur
ouais.
Parce que, enfin, en fait, on se dit, c'est des athlètes comme nous, elles vivent la même chose que nous, elles mangent la même chose que nous, et ça les humanise, on va dire. Parce que des fois, juste un nom avec un chrono sur un bilan, ça peut faire peur. Et quand tu enlèves tout ça et que tu découvres une personne
qui mange du riz à midi,
je sais pas, ça rend la personne plus sympa.
Et qui est sympa alors? Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises d'athlètes avec qui vous vous êtes retrouvés à parler? Vous vous êtes dit, ah tiens, j'avais pas cette image-là, mais en fait, il ou elle est très sympa.
Bon, en tout cas, moi, ma pote du circuit, c'est Esther Guerrero. C'est grave ma pote du circuit. Je sais pas, elle me rassure. Quand je sais qu'elle est là dans la course, ça me rassure. Parce que je sais qu'elle court bien et bah, elle a de l'expérience, tout ça, donc voilà. Toi, Léna, toi aussi, t'es des potes, toi, non?
Ouais. J'aime bien Eloisa Coiro. C'est une Italienne, elle est francophone parce qu'elle a été en lycée français en Italie. Et elle est super sympa et elle est rayonnante comme fille. Elle a toujours le mot gentil et elle me dit « Ciao, bella !» Et j'adore qu'on dise « Ciao, bella
!» Et c'est vrai qu'elle parle super bien français.
Ouais, et c'est une fille de ma génération, donc on va être amenés à, j'espère, à courir plein de courses ensemble.
Il y a un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur le podcast, mais qui peut être intéressant, c'est le sujet de l'obligation de localisation pour les athlètes de haut niveau. C'est très contraignant, ça.
Alors, nous, on n'est pas dans le groupe cible, on est dans le groupe contrôle, donc on n'a pas besoin de donner une heure précise par jour où on est là. Par contre, on doit donner...
Un moment dans la journée où ils peuvent venir, donc nous, mais on dort.
Ouais,
parce que c'est le plus simple.
Ouais, c'est un peu... Bah, quand t'es dans ton train-train quotidien, c'est facile, parce que c'est toujours, voilà, t'es chez toi. Mais
si ça change,
ouais,
s'il y a des compètes prévues au dernier moment, ou... Par exemple, moi, ma mère, elle habite à Aulnay-sous-Bois, donc à côté de Charles de Gaulle. Et des fois, je me dis, avant de prendre l'avion, au lieu de faire un Rennes-Charles de Gaulle direct, je m'arrête à Aulnay le soir et je me pose. Et c'est des trucs qu'il faut rajouter, en fait, et qu'il ne faut pas oublier. Après, c'est notre boulot, on le fait, ça fait partie du taf. Et ouais, c'est un peu relou, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir un sport propre. Je pense que toutes les deux, on est très contentes de se faire contrôler, que ce soit en compète ou ailleurs. C'est une appli en plus, en fait, c'est une petite appli. C'est plutôt bien fait, ça prend 5 minutes pour changer une adresse, sachant qu'on a nos adresses principales qui sont déjà préenregistrées, qu'on peut préenregistrer, donc il y a juste à appuyer sur un bouton. Et voilà, et on doit remplir en gros, c'est par trimestre que ça marche, et on peut changer.
Et vous êtes contrôlée tous les combien en général ?
Bah en fait, en compétition, j'ai beaucoup été contrôlée, parce que j'ai fait les records de France et tout, mais finalement, via notre localisation, moi j'ai été contrôlée qu'une seule fois chez moi.
Ouais, moi une fois en stage.
Donc c'est très peu. Mais il faut être vigilant tous les jours. Et non, moi, je trouve ça bien. C'est rassurant. Moi, je trouve ça rassurant qu'on soit, par exemple, tous les deux rentrés dans ce protocole-là et qu'on se dise, bah voilà, j'espère que dans tous les autres pays et tous les autres athlètes de notre niveau le font.
Ouais.
J'ai créé, pour la petite anecdote, un mode sur mon iPhone. Parce que normalement, moi, je suis en ne pas déranger pendant toute la journée. Donc, ça veut dire, si vous m'appelez, je suis injoignable. Et du coup, je me suis créé un peu un slot de 5h à 9h tous les jours où on peut m'appeler parce que... pas avoir de no show et j'ai mis la tête d'Agathe comme ça sur mon fond d'écran et je vois ça tous les matins au réveillon.
Et vous vous souvenez de votre premier contrôle?
Oui, c'était en junior, c'était en stage de préparation pour les championnats du monde et du coup c'était assez cool de le faire dans ce cadre-là parce qu'on avait le temps, on avait un médecin d'équipe de France avec moi qui m'a accompagnée, qui m'a tout expliqué, donc c'était comment dire une première fois avec beaucoup de pédagogie et en tout cas j'ai bien vécu l'expérience. Je pense que si tu fais ton premier contrôle et qu'on t'explique pas trop les procédures et qu'il y a beaucoup de stress parce qu'il y a du monde derrière et tout, je pense que tu peux mal le vivre.
Moi je l'ai fait en anglais toute seule au championnat d'Europe à Gaveleux. Bon en vrai ça a été parce que la contrôleuse était super sympa et je revenais des États-Unis donc je parlais couramment anglais. Donc ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça peut être un moment hyper stressant, surtout en compétition, ils viennent nous chercher juste après la course, on n'est pas forcément très lucide. On sait jamais trop ce qu'on a le droit de faire ou pas, si on peut aller faire une récup ou pas. Et puis le premier, tu te dis, mais en fait, je vais même pas boire parce que ça se trouve, j'ai pas le droit de boire, j'ai pas le droit de bouger. Et ouais, c'est toujours un peu stressant, mais maintenant, on a l'habitude.
Et c'est toujours, quand vous êtes des femmes, il y a toujours une contrôleuse femme avec vous.
Oui,
oui.
Là, on parle des contrôles urinaires ou des sanguins aussi?
Moi, j'ai jamais fait de sanguin.
Moi, sanguin, c'était okay. La même personne qui m'a fait l'urinaire.
Il faut aussi mettre sa pudeur de côté dans ces moments-là, quand c'est urinaire.
Ouais, je pense que déjà notre sport fait qu'on a notre pudeur un peu de côté et enfin moi en tout cas ça me dérange pas de faire pipi devant quelqu'un c'est pour vérifier que tout se passe bien. Il peut y avoir quelques petits blocages, c'est pas facile.
En plus, des fois, elle parle. Quand c'est le moment de faire pipi, elles sont en train de parler. Ça donne pas envie. Mais oui, en fait, pour expliquer, on va dans des toilettes où c'est ouvert, souvent des toilettes handicapées, où c'est grand et ouvert. Et on doit faire pipi. Elle doit voir, en fait, où sont nos mains et où est le gobelet. On fait pipi dans un gobelet. Et tout doit être vu, en fait. Donc on se retrouve nu face à une parfaite étrangère. Mais c'est le cas pour tout le monde et... c'est le jeu, quoi.
Oui, vous savez pourquoi vous le faites.
Exactement.
Si vous étiez nommée ministre des Sports, votre première décision, ça serait quoi?
Waouh. Moi, je mettrais peut-être un peu plus d'importance dans le voie du sport en général, dans les écoles. Moi, je sais que... Après, je pense que ça dépend de toutes les écoles, mais dans mon école primaire et élémentaire, j'avais pas de sport, en fait. Donc, si mes parents m'avaient pas emmené faire des activités extrascolaires, j'aurais pas fait de sport parce que c'était pas dans le programme, enfin je sais pas pourquoi, mais en tout cas on n'en faisait pas parce qu'on n'avait pas le temps et il valait mieux faire des maths et de l'histoire géo et du français, et c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse, mais je pense que le sport a aussi toute sa place dans le programme et il y a plein de choses à apprendre à travers le sport en fait. Moi ce serait surtout ça.
Je vais un peu aller dans ton sens. Moi au lycée, j'étais dans un lycée dit à double cursus, il s'appelle Georges Brassens dans le 19e à Paris. Il a fermé depuis, mais en gros c'était un lycée où on avait cours de 8 à 13 heures, donc on avait le programme classique pareil que les autres lycéens mais sur une plage horaire réduite, et l'après-midi était dédié aux activités extrascolaires, donc culturelles ou sportives. Donc, j'avais beaucoup de danseuses avec moi du CNSM et du CRR, donc c'est les deux grands conservatoires à Paris, des musiciens, des musiciennes, les danseurs, danseuses et des sportifs. Et je trouvais ça génial parce que, en gros, c'est sur le modèle de certains pays nordiques où on a une activité à côté, donc une ouverture au monde et aux autres. Et c'est aussi un facteur de motivation pour les cours à côté. C'est que si on a une activité, ça peut être un facteur de motivation aussi pour les cours et une manière de se donner aussi dans les cours. Et comme le disait Agathe, on a des belles valeurs dans le sport et même après dans les autres activités, qu'elles soient culturelles ou musicales. Je trouve que c'est important de faire autre chose et de rencontrer d'autres gens. Et moi, le lycée, ça a été incroyable parce que j'étais mélangée avec plein d'autres gens qui faisaient des choses différentes et qui étaient passionnés. Et je trouvais ça trop cool. Et je trouve ça intéressant que chacun puisse trouver sa passion et ce qu'il aime faire, parce qu'il y a plein de choses hyper cool à faire. Il faut juste trouver ce qui nous motive au quotidien. Nous, on a de la chance d'avoir trouvé ce qui nous motive, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que permettre à chacun de trouver sa passion et pouvoir le faire au quotidien, c'est génial.
Et dans le sport de haut niveau, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines choses qui pourraient être améliorées ?
Moi, je pense que le truc qui me dérange le plus, on va dire, dans le fonctionnement actuel, c'est on aide ceux qui ont déjà réussi. Et pour moi, il faudrait commencer à beaucoup aider ceux qui sont à l'échelle inférieure et qui ont besoin de cette aide justement pour passer au step supérieur. Moi, ce serait surtout là-dessus que je ferais quelque chose, quoi.
Ouais, et les aides financières pour ce groupe de personnes-là et d'aménagement socio-professionnel, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas des aménagements d'horaire et il y a des choix qui sont faits, qui doivent être faits. Et ouais, une aide financière, je pense à David Sombé qui était déménageur il y a peu, alors que il est en équipe de France de 4x4. Enfin, c'est juste pas normal qu'un mec comme ça doive bosser à côté de sa vie de sportif de haut niveau. En fait, ça fait un double job parce que être sportif de haut niveau, c'est un travail, même si c'est pas bien reconnu dans la société comme tel, c'est un travail. Et ouais, il avait un double job, quoi. C'est juste pas normal. Alors certes, on peut aller trouver de l'argent dans le privé, et c'est bien que certaines personnes dans le privé fassent le pas et aident les sportifs de haut niveau, mais je pense que ça devrait être une obligation publique d'aider les sportifs de haut niveau, et de plus, les sportifs de haut niveau qui sont en équipe de France, quoi. Ils représentent quand même la nation et ils ont une utilité pour tous, quoi. Même au quotidien, moi, j'ai tendance à aller intervenir dans les écoles, etc. Et ça fait partie du job et je le fais avec grand plaisir. Mais je pense que je devrais, par exemple, être aidée pour ça. Et c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a un problème d'ordre financier à régler au niveau public en France.
Vous arrivez à gagner votre vie avec le sport ou vous dépendez absolument de partenaires privés ?
Alors, avec là, cette année, avec les Jeux Olympiques, il y a pas mal de bourses qui sont ouvertes. Mais cette année, je sais pas ce que ça va être les années prochaines. Et c'est un peu ça le problème quand on fait du sport de haut niveau, c'est qu'une année ne ressemble pas à l'autre. Donc, une année, on peut avoir pas mal de revenus et l'autre année, pour X ou Y raison, se retrouver avec rien du tout. Mais ouais, toutes les deux, on dépend 90% du privé. On pourrait pas vivre avec les aides publiques, ça c'est sûr. Et encore, on a la chance d'avoir un club, le Haute-Bretagne Athlétisme, qui nous soutient, qui nous aide, qui cherche à trouver des solutions. Moi, j'habite dans un appartement social de la ville de Rennes qui a été négocié par le club, donc j'ai des loyers modérés. Nos stages, ils sont payés en partie par le club et nos déplacements aussi en compétition, en tout cas en grand championnat parce que les meetings, c'est pas un sujet, mais ils rémunèrent Marc, notre entraîneur. Ouais, tout est fait et si on a besoin d'aide, on va leur demander, ils vont trouver des solutions. Donc on a de la chance d'avoir un club qui nous soutient, mais ça pourrait ne pas être le cas.
C'est quoi votre but ultime dans la vie ?
Là, mon plus gros défi, là, c'est les Jeux Olympiques et c'est d'être performante au jeu, mais dans ma vie de tous les jours, après ma carrière d'athlète, je pense que je relèverai encore des défis, pas que sportifs, hein, y a plein de choses à faire dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, ce que je veux pas, c'est avoir une vie casée dans un truc vraiment plan-plan. Je veux vraiment avoir vivre encore des émotions, du stress et profiter de la vie et de tout ce que ça peut apporter, quoi.
Moi, pareil, je veux bouger, je veux découvrir plein de nouvelles choses, de galérer un peu, parce que c'est un peu ça aussi la vie, de galérer et de m'en sortir et puis avoir des grosses émotions. Mais je pense qu'on est accro, en fait, à ça maintenant, d'avoir des hauts, des bas, et que ça chamboule dans tous les sens. Et je pense que ça va être challengeant de trouver un métier après le sport de haut niveau qui nous donne des émotions aussi fortes que ce qu'on a maintenant, mais il faudra trouver et pas devoir s'adapter, trouver plein de solutions.
On a eu de la chance, je pense, tous les deux dans notre éducation, d'avoir une ouverture d'esprit et de plein de choses. Et aujourd'hui, en plus, dans le sport, on a la chance, du coup, de découvrir plein de personnes, plein de lieux. Et voilà, on continuera à le faire plus tard, quoi.
Et vous avez justement toujours été soutenue par vos familles ou il y a parfois des gens qui vous ont dit « ça serait mieux d'avoir un job normal, entre guillemets, ça serait moins risqué ».
J'ai toujours été soutenue. Je suis partie au lycée, donc à Rennes, qui est à 2h30 de chez moi, en sport-études. Donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'ils avaient accepté le fait que je fasse du sport. Et même pour eux, il n'y avait pas de problème. Et en tout cas, j'ai de la chance, c'est qu'à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes. Donc,
on a quand même un double projet. Tous les deux aussi.
Enfin, on est tous les deux dans des grosses écoles. Donc, en fait, les parents, quand ils voient ça, quand ça fonctionne bien sur le plan scolaire et le plan sportif, on ne peut pas dire « non, arrête le sport ». je travaille bien à l'école, tu vois bien. Donc, ils n'avaient pas de raison de nous freiner. Et ils voyaient bien que c'était là-dedans que j'étais heureuse. Donc, je pense que c'est le plus important pour les parents et pour la famille, c'est de voir son enfant heureux et voilà.
Est-ce que vous pensez que vous arriverez un jour à être satisfaite ou est-ce que, en fait, on atteint un objectif et après, il y a toujours le suivant et on n'arrive jamais à se satisfaire?
Moi, je pense que je serai jamais satisfaite.
Non,
moi, j'ai du mal à me satisfaire.
Ouais, non, j'arrive à me satisfaire. Enfin, moi, cette saison, je suis satisfaite de ma saison hivernale. Moi, j'aime bien quand même me dire, ok, c'est quand même bien ce que j'ai fait, quoi. Je suis satisfaite. Après, ça veut pas dire que je vais pas chercher à faire mieux. Mm. Mais si à un moment donné, tu te satisfais pas, moi, je trouve ça dur. Hein.
Ouais. Vous savez qu'il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'athlé?
Dans l'athlé, je me sens moi, en fait, tout simplement. C'est simple pour moi de faire l'athlé et c'est l'endroit où je me sens le mieux. Donc, c'est ça que j'aime dans l'athlé, c'est moi.
Moi, ce que je préfère dans l'athlé, c'est être avec les copains et pouvoir parler et rigoler. Parce que tout à l'heure, Agathe, elle me parlait de la natation. Par exemple, ce matin, elle est à la natation et du coup, on parle pas quand on nage. On parle pas, on s'amuse pas, on communique pas, quoi. Et moi, ce que je kiffe dans l'athlé, c'est rigoler avec les copains, se challenger. Parce qu'il y a toujours moyen de se challenger à l'entraînement et jouer. Parce que l'athlé, c'est un jeu très sérieux. Mais c'est un jeu. Mais être avec les copains et jouer, quoi.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les jeunes qui veulent faire un double projet et qui se disent que niveau organisation, ça va être un peu compliqué?
Les conseils, c'est d'aller dans des écoles ou des facs. Je ne sais pas si c'est les facs qui le font. Mais qui connaissent déjà un petit peu les sportifs et qui font des aménagements. C'est ça le plus simple, ouais. C'est d'aller dans des structures qui connaissent. Et du coup, on va dire qu'il y a déjà des choses qui ont déjà été faites. Donc, c'est facile. Après, s'ils veulent se lancer dans des études où normalement il n'y a pas d'aménagement, il faut se dire que c'est possible. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont médecins et il y en a beaucoup, beaucoup dans l'athlète aujourd'hui.
Ouais, pas mal de demi-fondeurs.
Qui ont fait une étude de médecine et qui aujourd'hui sont très bons. Donc, ne pas avoir peur de se lancer dans les deux. Et
demander des aménagements, ne pas hésiter à demander et forcer. Il faut vraiment forcer. Et ça prend de l'énergie, mais c'est l'énergie bien placée. Et ouais,
généralement, c'est possible de faire les deux. C'est vraiment pas simple parce que en France, on va dire que rien n'est fait pour pouvoir faire les deux. Ouais. Enfin, quasiment rien. Et il y a quelques écoles qui le font. Nous, on a de la chance. Toi, Sciences Po et moi, PINSA. C'est des écoles qui prennent le sport comme facteur, comment dire, valorisant en fait d'une personne. Il y a d'autres facs où pour eux c'est un handicap, mais en tout cas, ouais, faut pas avoir peur d'y aller et de prendre des conseils aussi avec des gens qui ont vécu la même chose et qui ont des conseils en fonction du type d'études, parce que c'est pas forcément transposable ce que moi j'ai vécu.
On n'a pas du tout fait les mêmes études.
Donc,
c'est-à-dire.
Voilà, mais en tout cas, c'est possible.
Agathe, j'ai essayé de dire ce que tu fais.
Vas-y.
Elle fait des études d'ingénieur aménagement urbain.
C'est génie bon. Civil et urbain.
Génie civil et urbain. Elle est à l'INSA Rennes et elle est en quatrième année.
Cinquième année. C'est la dernière. Et du coup, Léna, elle, a pris un bac L. Alors, moi, j'ai fait un bac S. Donc déjà, on voit bien la différence. Elle fait Sciences Po Paris. Là, du coup, t'es en master communication et du média. C'est quoi?
Je suis en master communication, média et industrie créative.
Ah, c'est ça. C'est industrie créative.
Et c'est pour faire quoi après ça?
Plein de choses. Sciences Po, c'est incroyable de faire plein de choses après. Non, mais c'est pour travailler dans les grosses agences de pub, pour travailler en communication publique, privée, et après pour travailler dans toute l'industrie créative, donc le ciné, la musique, le monde du podcast aussi. C'est pas trop mon dada, moi je suis plutôt communication, et je me dirige plutôt pour travailler chez l'annonceur, je pense en communication, mais on verra.
Et les aménagements dont vous parliez, ils consistent en quoi? C'est que vous faites les études sur plus de temps?
Ouais, moi c'est ça. Là du coup je suis en cinquième année, mais c'est ma septième rentrée je crois. Et je vais avoir mon diplôme en 8-9 ans quoi, au lieu de 5. Mais au final j'aurais vu toutes les matières comme un élève lambda, mais juste j'aurais pris mon temps et un aménagement aussi au niveau des contrôles et des partiels que je peux déplacer et les passer toute seule avec un professeur. Parce que des fois ça tombe pendant les périodes de stage.
Ok.
Et moi, c'est presque pareil. Je fais mon master, qui normalement, un master, c'est 2 ans. Là, je le fais en 4 ans. Et par contre, j'ai pas le droit de déplacer mes contrôles. Si j'ai décidé de suivre un cours, je dois le suivre à 100%. J'ai pas le droit d'absence en plus. C'est juste que sur une année, j'ai le droit de prendre moins de cours que les autres et compléter avec une année suivante. Donc normalement, l'année prochaine, je valide mon master.
Et après, est-ce que vous pensez que ça sera difficile, quand vous aurez fini les études, d'avoir plus que le sport?
Non, parce que
ça prend.
Non, mais là, on est un peu. Enfin, sur ce semestre-là, on a dégagé nos cours pour préparer les Jeux Olympiques. la qualification déjà. Donc là, on est quand même habitué à
être sportif
à 100%. Et mine de rien, ça enlève un poids, ça fatigue moins. Moi, j'avais les allers-retours à Paris à faire dans la semaine. Je faisais le lundi, mardi à Paris, donc j'avais du train à faire. C'est pas loin, c'est 1h30, mais ça rajoute de la fatigue quand même. Puis faire des papers et tout.
Mais même là, arriver à notre niveau, quand en fait on a un double projet, on a presque un triple projet, parce qu'il faut qu'on gère aussi notre, on va dire, notre société en tant que sportif de niveau. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de paperasse à faire, de la sollicitation. Enfin, on a plein de choses à gérer et du coup, on s'ennuie pas du tout.
Vous avez des filles qui vous invitent à faire des podcasts, tout ça, bon...
Non, mais c'est normal, ça fait partie du boulot et en plus, c'est un plaisir de discuter, cool, ouais. Quoi, donc il n'y a pas de souci.
On adore parler.
Mais c'est vrai que c'est des choses à gérer et ça prend du temps. Donc non, je pense qu'après, quand on aura fini les études, un jour peut-être, parce qu'on n'a toujours pas fini, je pense que ça se passera bien. Ouais. On pourra faire que du sport et après, on est plutôt de nature curieuse et on ira peut-être aller on ira se cultiver ailleurs, quoi. Cinéma.
Je la traînerai au ciné, musée, on ira au musée.
Il y aura des livres peut-être, j'apprendrai à faire un Rubik's Cube, mais bon, il y a plein de choses à faire.
Et sur ce qui est média, est-ce que l'exercice de l'interview, c'est un exercice qui a toujours été assez facile pour vous deux, ou est-ce que au début, par exemple, Agathe, on s'est vu en zone mixte, la zone mixte c'est quand même un exercice qui est encore différent, c'est juste après la compète, on n'est plus forcément très lucide, on peut être déçu parfois. Est-ce que c'est des choses que vous avez dû apprendre?
Bah du coup, j'ai commencé d'athlète super tôt, à 8 ans. J'ai eu la chance de faire des podiums assez vite. J'avais 8 ans et on tendait déjà un micro. Donc, je pense que j'ai appris petit à petit à être à l'aise. Et en plus de ça, on s'exprime sur ce que nous, on a vécu et sur notre personne. Donc, moi, je trouve ça facile, en fait. Pas besoin de réviser. Hein. C'est toi qui as la bonne réponse. Donc, ouais. Et en plus de ça, j'aime bien ça. Mais je pense parce que j'ai appris petit à petit. Et depuis mon plus jeune âge, bah, j'ai été amenée à parler devant du public. Donc, ça fait petit à petit, quoi.
Et moi, je suis plutôt assez stressée comme fille. Donc, prendre la parole en public, à la base, ça me stresse. Mais de par mes études, j'ai appris à prendre la parole en public. Et j'interviens aussi pas mal sur Athlète TV. Je fais les commentaires. C'est vrai que ça m'a pas mal formée. Non, c'est vrai que là, ça va. On verra dans les grosses compétitions. Au championnat du monde, déjà, c'était dur.
Ouais.
En plus, non, mais pour expliquer la zone mixte, en fait, on arrive... Quand on court en grosse compétition, en championnat du monde, en championnat d'Europe, on finit notre course et après on doit aller en zone mixte. Sauf que la zone mixte, elle n'est pas au niveau zéro. On doit monter des escaliers, plein d'escaliers, mais on vient de courir. Et à Budapest, c'était horrible. Genre, il faisait super chaud et c'est horrible. T'arrives en haut des escaliers, tu viens de courir il y a une minute, t'es cuite chez cuisse et tu dois parler devant la télé. Mais c'est quand même très très dur comme exercice. Et après, il faut redescendre parce qu'il y a toute la presse écrite qui est en bas. Et ouais, c'est assez compliqué et faudrait avoir des entraînements spécifiques où on fait un 400 à pleine balle et après on va s'interviewer les unes les autres. Mais ouais, ça c'est dur comme moment.
Et le fait de devoir répondre aux mêmes questions tout le temps?
Du coup, c'est la première fois que j'ai eu ça, c'était à Glasgow, là. Ouais. J'ai eu 3 fois la même interview quasiment. Et à la fin, je me suis dit, mais mince, les gens, ils vont l'avoir mal parce que tu racontes toujours la même chose. Et en fait, non, c'est juste qu'ils vont voir ça sur différents médias. Mais après, tu peux aussi, tourner l'interview d'une façon ou d'une autre pour éviter de te répéter complètement, même si au final, le fond, c'est la même. Tu peux changer un peu la forme et mettre un peu d'humour et ou pas mettre d'humour. Enfin, c'est à toi aussi d'être acteur dans ce moment-là, quoi.
Et puis, on commence à bien connaître les différents journalistes et avoir plus ou moins une complicité avec eux. Donc,
ouais, ça peut faire la différence.
Ça peut faire la différence, ouais.
Oui, c'est aussi un job que j'apprends, c'était la première à Glasgow. Et je ne sais pas si vous aviez su, mais à Glasgow, c'est la première fois qu'il y avait une zone spéciale pour les créateurs de contenu, parce qu'à Budapest, il y avait eu des grandes tensions entre les vrais journalistes, entre guillemets, et puis la nouvelle génération qui fait des choses un peu différentes. Et donc, ils avaient décidé de séparer. Bon, cette année-là, à Glasgow, les créateurs de contenu, on était quand même assez... Je pense qu'on faisait des choses assez proches de ce que font les vrais journalistes, entre guillemets. Mais à Budapest, il y avait des créateurs de contenu très différents qui faisaient faire des pas de danse ou des choses comme ça. Et ça avait un peu créé des tensions avec des journalistes qui se disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font là en zone mixte ?» Est-ce que vous pensez que c'est l'évolution des choses, que voilà maintenant, une nouvelle génération qui fait des choses différentes? Ou alors, est-ce que si on vous demandait en zone mixte de faire votre pas de danse préférée, vous vous diriez « Non, mais cette personne n'a rien à faire là. »
T'as chanté toi en zone mixte?
Moi, j'ai chanté en zone mixte.
T'as chanté en zone mixte?
Non, mais enfin, si on n'est pas d'accord, il suffit de refuser. C'est pas forcément facile, mais...
Et puis moi, je trouve ça trop cool parce que ça participe à l'attractivité de notre sport.
Ouais.
Et c'est trop bien. Enfin, ça attire un nouveau public et ça montre que l'athlète, c'est cool. et qu'on se marre. Et je trouve ça cool, plutôt que de rester dans un truc hyper austère et très classique. Faire les choses différemment, ça attire un nouveau public. Et...
ça permet de nous découvrir aussi peut-être un peu mieux.
Ouais,
aussi.
Ouais, ouais. Et différemment. Et différemment. Bah, j'ai trouvé ça très bien ce qu'ils ont fait World Athletics dans les présentations des athlètes en papier sur le PDF. Il y avait un peu les hobbies des athlètes et quelques caractéristiques. Et j'ai trouvé ça trop bien, ça rend vachement humain tous les athlètes. Il y avait une des concurrentes d'Agathe qui adorait la littérature grecque. Non, c'est comme ça. Des trucs bon, un peu farfelus, mais c'est génial, enfin, c'est vraiment bien.
Oui, après chacun son style. Moi, c'est vrai que je me vois pas demander de faire des pas de danse, mais peut-être un jour, on sait jamais. Bon, bah, les filles, merci beaucoup.
Merci.
Et qui sait, peut-être qu'on refera un épisode dans quelques temps.
Avec la troisième de la team.
Oui, okay. Mais oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à la base, je vous ai invité séparément.
Oui.
Et que vous m'avez proposé de faire ensemble. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû avoir les trois.
Ouais.
Merci.
Merci. Merci à toi.
Merci Agathe, merci Léna d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Dites-moi si ce nouveau format portrait croisé vous plaît et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions d'invités. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Avec chacun de vos partages, vous faites grandir la communauté du podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Je vous mets le lien dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.